Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Varel, est aussi avec nous en studio. Comment ça va?
Ça va bien, merci.
C'était pas facile le matin, là?
Ben non, les routes sont encore glacées, donc les gens sont prudents, il y a des...
J'ai trouvé ça plus tough ce matin, je le disais un peu plus tôt, là, plus tough ce matin, m'en venir de Cap-Santé, puis en ville aussi, que hier, quand il y avait des précipitations.
Ouais.
Tu sais, c'est gelé, puis tu sais, la slush qui n'est pas ramassée, elle devient des bosses, là, dans le fond, là, tu sais. T'as-tu entendu un peu la discussion, puis tu sais, je veux commencer avec ça, par rapport au poêle à bois, véhicule à gaz, parce que ça a soulevé, puis évidemment, on parlait de la réglementation ici à Québec des poêles à bois, là, et de la poêlisse. C'est une belle création de Max Larouche, un peu un
des
peu
fois,
plus tôt,
je suis
là.
Brillant de même.
Ah, ça, ça t'a fait ma journée avec, avec ça. T'en penses quoi? T'as-tu, je sais pas où t'habites, t'as-tu un poêle à bois?
J'ai pas de poêle à bois, mais j'aimerais ça en avoir un, là. Mais j'habite à Québec, donc ça va commencer à être difficile, mais c'est sûr que ceux qui ont ça, je comprends à quel point ils tiennent à garder cet acquis-là. Ça fait référence à notre autonomie puis notre capacité de garder le contrôle sur notre vie, garder le contrôle sur les imprévus qui peuvent arriver. Le plaisir aussi de faire un bon feu de foyer puis d'entendre le craquement, le crépitement, mais aussi ce rapport à l'autonomie puis à l'indépendance face aux produits énergétiques. Hey, le feu, ça remonte. Ça remonte à loin.
C'est un peu la création de l'humanité, un peu. Là,
ben
t'sais.
Oui.
La plus belle invention de l'humain, là, finalement, même si c'est un accident, peut-être, le feu.
Moi, je le vois comme une entrave. On enlève le droit à faire du feu chez soi pour se chauffer, pour être indépendant sur le plan énergétique. Peut-être c'est juste temporaire. Souvent, on est alimenté à la bioénergie, bien sûr, mais il reste que ça fait appel à des valeurs ancrées profondément.
C'est un discours qui me rappelle... Là, je viens d'avoir le flash. Parce que moi, je suis zéro chasseur. Mais c'est la même chose que quelqu'un qui pratique la chasse va dire aussi, « Enlève-moi jamais ça. » Moi, c'est cette viande-là que je veux, le droit de la chasse, chasser mon animal, remplir mon congélateur de viande puis pas l'acheter à l'épicerie.
Ben oui.
Moi, il y a une chose qui me fait peur là-dedans, c'est l'interdiction pour les foyers de plaisance. Puis, tu sais, je m'explique, parce que ça, tu sais, c'est vrai que c'est cool. Il n'y a rien de mieux que en hiver, arriver puis dire, hey, tu fais un bon petit souper d'amis, puis tu te retrouves à la fin de la soirée autour du foyer, puis tu jases avec une petite coupe de vin dans les mains, puis la vie est belle. Puis j'ai peur que ça, à un moment donné, ça se répercute sur nos foyers dans les cours extérieurs. Moi, c'est ma crainte que j'ai. Fait que ça, vraiment, moi, cette interdiction-là, je suis contre. Les poêles à bois, par exemple, le fait qu'il y a une subvention puis que tu peux le changer pour un certifié, ça me cause plus ou moins de problèmes parce que je me dis, bon, on t'accompagne dans tout le processus.
Puis après ça, c'est réglé, là.
À peu de coups, puis c'est réglé. Puis tu peux continuer à l'utiliser à vitam aeternam. Ça me cause moins. Ça, je te dirais même, ça me cause pas de problème. Ouais. Mais les foyers de plaisance, là, moi, je suis contre cette interdiction-là parce que on le dit comme ça, là, c'est plaisant. Puis t'es en bout de piste, là, il y en a, t'sais, ça correspond à 40% du nombre par rapport au poids à la boîte. Je pense que ça vient équilibrer, même si tu continues à les utiliser.
Tellement.
Ben ouais.
As-tu écouté notre jazzette, notre entretien avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon? Hier,
absolument. T'en as pensé quoi? Ben, c'est intéressant de voir, vous avez couvert plusieurs sujets. C'est intéressant de voir qu'il est satisfait. Il est satisfait du travail qu'il a accompli avec ses députés, mais qu'il souhaite, il y a toujours une visée de gagner là ou les prochaines partielles pour augmenter son équipe parce qu'il veut couvrir plus large. Donc, il est ambitieux et on aime ça, les élus qui sont ambitieux. À propos de Santé Québec aussi, c'était très intéressant de l'entendre, de démontrer là, de mettre en lumière que Santé Québec est en examen en ce moment, a toutes ses preuves à faire. Il y a une démonstration d'utilité, de raison d'être de Santé Québec. Et c'est vrai qu'il faut le garder en tête dans la prochaine année, dans les deux prochaines années. Est-ce qu'on a bien fait de créer Santé Québec? Il faut que Santé Québec démontre son utilité. Parce qu'il y a des coûts à avoir créé ça. Donc, de dire qu'ils vont couper 1 milliard dans les dépenses, mais ça a coûté combien, créer Santé Québec, à quantité de salaires qui s'accumulent, des gros salaires à Santé Québec, si finalement on coupe 1 milliard, mais que finalement, juste la gestion de tout ça, ça engendre d'autres dépenses, bien, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée à ça.
Oui, puis moi, il y a le principe démocratique qui m'avait échappé par rapport à Santé Québec. Tu sais, que la directrice générale de Santé Québec, elle n'a pas à être à l'Assemblée nationale, elle n'a pas à répondre aux questions des élus. Donc ça, je trouve que c'est une entorse au
droit... Fait que t'as pas de compte à rendre.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est une entorse au droit de s'opposer, c'est une entorse à la transparence publique parce que le ministère de la Santé, ben c'est notre argent qui le finance.
Ben oui, absolument. La seule chose que... Moi, si jamais il nous écoute encore, Paul Saint-Pierre Plamondon, la seule chose que je trouve, vous y avez posé la question, hein, si demain matin il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait avec Santé Québec, puis qu'est-ce qu'il fait aussi avec le réseau de la santé? Tu disais, Reg, c'est une grosse machine. Ouais. Il y a plusieurs ministres de la Santé qui ont essayé de faire des choses avec ça. Puis c'est des personnes intelligentes, Guetta Barrette, Christian Dubé, mais ils n'arrivent pas à redresser cette machine-là. On n'a pas parlé du privé en santé.
T'as raison.
Et le Parti québécois milite souvent contre le privé en santé, alors qu'il faut que les gens comprennent que le privé actuellement a un grand rôle et c'est ce qui sauve notre système actuel. Ben oui. On a des ententes avec des cliniques privées où il n'y a personne qui sort d'argent de ses poches directement lorsqu'il reçoit des soins. Ce que je veux dire, c'est que les contribuables ou les patients vont dans des cliniques privées pour recevoir certains services de chirurgie, par exemple, on l'a vu, et ces cliniques-là de chirurgie privée se font rembourser par la RAMQ. Donc, les patients n'ont pas à défrayer des coûts, mais c'est le service public qui opère, qui effectue des chirurgies et qui permet d'avoir une grande efficacité. Et cette efficacité-là, c'est grâce au privé parce que le privé est capable d'être agile. Le privé n'est pas empiétré dans des syndicats, dans des chicanes bureaucratiques, technocratiques. Le privé doit générer des profits. Donc, il n'a pas le choix d'être efficace et d'avoir du roulement, d'avoir une organisation agile aussi.
Fait-il bien de persister et signer sur le wokisme? Moi, j'aime beaucoup ça parce que, tu sais, je regardais justement hier, là, je refaisais un peu l'historique du Parti québécois, puis je me disais, ben, en 2005, Bernard Landry a été tassé par des wokistes, par des extrémistes de gauche, puis ça a mis une gangrène dans le Parti québécois qui n'ont jamais été capables de se débarrasser. Avant là, j'ai l'impression.
Oui, absolument. Bien, c'est bien, c'est rafraîchissant de voir un élu, un politicien qui assume ce qu'il a dit, assume ce qu'il a défendu, puis d'aller jusqu'au bout, même quand ça devient difficile. Parce que il y en a qui dénoncent des fois, puis ils se rétractent parce que ça suscite trop de grogne. Et puis lui, il va jusqu'au bout.
Haroun Boisy aussi. Haroun Boisy aussi est allé jusqu'au bout. Lui, pourquoi c'est pas correct?
Oui, c'est ça.
Ça dépend quel propos tu tiens, OK?
Ouais. Faut que les propos se tiennent.
C'est ça.
Oui.
Hey, Jacinthe, je veux t'entendre sur les commentaires, voire insultes d'Elon Musk envers le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Bon, on peut penser ce qu'on veut. Opinion personnelle sur Justin Trudeau, il y en a en masse, ça c'est sûr et certain. Elon Musk, dans ses nouvelles fonctions, entourage de Donald Trump, peux-tu te permettre ce genre de commentaire-là? T'en penses quoi?
Bien, je te retournerai la même chose. Est-ce qu'un premier ministre de province peut se permettre de dire, moi, j'étais pogné avec la COVID en telle année, puis là, je suis pogné avec Trump?
Non.
Bon.
C'est ça.
Alors, c'est ça. Il n'y a pas que les paroles du premier ministre Justin Trudeau qui comptent. Les paroles des premiers ministres comme Doug Ford en Ontario, qui, lui aussi, là, prend beaucoup de place, va dans les médias américains, va à la télévision, à Fox News, fait des déclarations. François Legault, qui est un premier ministre de province du Québec, mais qui aussi a eu des propos malhabiles ou déplacés ou, bon, on peut qualifier clairement comme on veut. Mais alors, il ne faut pas s'étonner que, finalement, l'entourage de Donald Trump s'en mêle et continue cette escalade ou cette joute oratoire, cette rhétorique de se baver, de s'écœurer. Quand Justin Trudeau... Puis là, il faut faire toujours le lien. Elon Musk a eu ces propos-là le lendemain que Justin Trudeau était dans un rassemblement public et qu'il a dit que c'était finalement un signe de non-progression qu'on n'ait pas élu, que les Américains n'aient pas élu une femme comme présidente des États-Unis. Donc, c'est des propos... Les élections sont passées, c'est Donald Trump qui a été élu. Comment notre premier ministre du Canada peut aller avec une aussi grosse bavure que ça? C'est pas sans conséquence et ça alimente simplement une relation qui est déjà difficile, qui est déjà tendue, qui est déjà complexe. Alors, l'erreur, le blâme va d'abord et avant tout à Justin Trudeau, qui, la veille des déclarations d'Elon Musk, osé dire « ça n'aurait pas dû se passer comme ça, on aurait dû être en marche vers le progrès ». C'est, même si c'est parfois difficile. Pourtant, il y a quelques semaines, les États-Unis ont voté pour la deuxième fois contre l'élection d'une première femme à la présidence. Les Américains n'ont pas voté contre une première femme. Ils ont voté pour un candidat qui répondait mieux à leurs attentes, qui répondait mieux, qui offrait un programme qui les satisfaisait. Mm-hmm. C'est simplement ça. Alors, ça n'a rien à voir avec le sexe.
Toi, t'aimes pas ça, penser qu'on faudrait voter pour une femme parce que c'est une femme?
Je trouve que c'est les propos les plus misogynes et les plus dégradants que nos élus peuvent faire. Quand j'entends, ou même des journalistes, des chroniqueurs, quand j'entends ils n'ont pas voté pour une femme ou on s'attendait à avoir le vote des femmes, le vote, ça vient me chercher parce qu'on est en train de dégrader la femme et la réduire à je vote pour mon semblable au niveau des chromosomes et du sexe. Ouais. Moi, je n'ai pas de pensée politique, je n'ai pas de pensée économique, je n'ai pas de pensée critique. Moi, si c'est une femme, je vote pour elle parce qu'on est pareil. C'est ridicule et c'est misogyne.
Tu vas voter pour François Legault, Geneviève Guilbeault, la CAQ, c'est pas vrai. Mais quand t'as fait la blague, je vais me lancer dans le sujet. François Legault qui a les deux mains sur le volant, on dirait Jean Charest avec le Parti libéral. Mais pas surprenant, compte tenu que c'est lui qui a créé le parti. Là, veux pas, là, tantôt, je vais faire un push au créateur du parti.
Ben
t'as besoin de t'habiller de bonheur. Là,
Ben oui, c'est sa création. Il a monté ça de toutes pièces et il n'y a personne qui va oser le pousser, le tasser de sa posture. Mais de toute façon, on est en 2024. Bon, l'année se termine, mais les prochaines élections sont en octobre 2026. Ça serait complètement un très mauvais faux pas de la part de François Legault d'annoncer tout de suite « Oui, il est possible que je me tasse, il est possible que je laisse la place à quelqu'un d'autre » parce que ça changerait complètement le paysage politique en ce moment. Ça créerait une adversité puis déjà des gros jeux de pouvoir entre les futurs potentiels successeurs. Et là, on aurait pu... Pour nous, là, c'est parfait qu'il dise qu'il ne veut pas partir. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. Mais c'est
faudrait pas l'annonce maintenant. Là.
Non, ce n'est pas le temps que les futurs aspirants commencent à être plus préoccupés par être populaire et faire des gains auprès des électeurs, faire des gains auprès des collègues, puis se faire apprécier pour éventuellement prendre sa place, que être en mode focus sur leurs obligations ministérielles.
Puis en même temps, notre PM perdrait sa légitimité.
Oui, absolument. Oui.
Est-ce que tu penses, puis c'est un bout qui a attiré mon article, dans mon attention dans l'article du journal ce matin, le bout où on parle du fait que c'est peut-être François Legault, quand il va partir, qui va dire c'est lui ou c'est elle le nouveau, la nouvelle chef, il n'y aura pas de course à la chefferie, parce que quand tu regardes les dispositions de la CAQ, comment ça a été créé, ça se peut que ce soit de même, ça se fasse, c'est quelque chose qui te surprend ou?
Bien, je le savais, c'est comme ça, c'est inscrit comme ça dans la Constitution. Alors, faudrait changer la Constitution pour arriver avec une course à la chefferie. Donc, ça ne m'a pas surpris. Et il y a des avantages et des inconvénients à cette formule-là, mais vous savez, les courses à la chefferie, bien là, retenez pas ça contre moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais une course à la chefferie, mais les inconvénients sont que on est obligé, ça place les éventuels, ça place les candidats dans une posture d'adversité.
Mm-hmm. Et, ça fait de la chicane.
Ben ça fait de la chicane, ça fait du salissage aussi.
J'ai toujours trouvé ça maladroit.
Ben oui.
C'est que deux personnes d'un même parti qui semblent habituellement bien travailler ensemble,
ben oui,
tout d'un coup essayent de gratter les bobos de l'autre.
Ben oui. Puis le salissage, il peut se faire en pleine face de tout le monde ou par en arrière. Mm-hmm. Je vous donne l'exemple. Denis Coderre, ses déboires avec le fisc, avec l'Agence de revenus du Canada, avec tous ces enjeux de finances personnelles qui ressortent sur la place publique, ça, c'est des jeux de coulisses par en arrière. Ça peut être des... Je ferai faire attention à ce que je dis. Ça peut très bien être mené par des adversaires par en arrière qui filent de l'information aux journalistes pour que de l'information négative sorte à leurs propos et ça les place en avantage.
Émilie Lessard-Terrien, qui n'a pas du tout le choix de la garde rapprochée de Gabriel Nadeau-Dubois, il y a eu des jeux de coulisses après sont faits pour Castas puis Ruba Gazal arrive.
Absolument, là. Absolument. Donc, c'est jamais bon.
Jacinthe Avarel, notre chroniqueuse politique, toujours un immense plaisir.
Ben, c'est
à quel point on t'apprécie. Et quand on le dit, c'est réciproque pour les auditeurs aussi, les auditrices qui nous envoient des textos. On adore t'avoir dans la belle équipe de Reg Against le matin. On va se parler, c'est sûr, la semaine prochaine avant le congé des fêtes.
Oui, absolument.
Puis on te lance l'invitation aussi, si jamais, juste comme ça, puis on va en parler tantôt, mais le dernier show de l'année, là, le 20 décembre au matin, on le fait en direct du Sobab, 3e avenue dans Limoilou. Fait que si c'est pas cette journée-là que tu viens faire ta chronique, tu passes nous voir rencontrer les auditeurs, les auditrices.
Oui, excellent, je vais être là. C'est sûr.
À la semaine prochaine.
Bonne journée. Boulevard.